Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Un espace, une pause, un cocon que j'ai imaginé pour nous rencontrer. Je vous propose une série d'épisodes incroyables, des rencontres douces et sensibles, toujours en lien avec l'humain, la grossesse, la naissance, l'éducation, l'enfance et l'aventure de la parentalité. Je m'appelle Lika Sarr et je vous accompagne pour vous guider vers plus de conscience et vous aider à retrouver, à trouver votre puissance. Infirmière puéricultrice et instructrice certifiée de pleine conscience, je vous offre la possibilité de trouver vos propres outils pour faire face aux défis du quotidien, dans la relation à soi, à son enfant et plus largement à votre environnement. Avec beaucoup de spontanéité et de légèreté, je vous partage ces discussions passionnantes qui vous parleront assurément. J'aurai plaisir à échanger avec vous, alors retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez aborder une problématique de votre parentalité, préparer une naissance en pleine conscience ou participer à l'une des retraites que je propose, contactez-moi et cheminons ensemble. Aujourd'hui, je reçois Damien Gracia. Psychologue et papa, Damien nous offre son expertise et son regard si juste sur l'éducation des enfants neuroatypiques. Fort d'une expérience outre-Atlantique lors de laquelle il a pu développer ce qu'il appelle son radar sensible, il nous partage ses points de vigilance et nous offre des nouvelles pistes, des pistes précieuses pour prendre soin des enfants aux besoins spécifiques. Si vous êtes professionnel de l'enfance, de la petite enfance, je vous invite à écouter la première partie de notre échange sur ce même thème sur le podcast Les Petites Transmissions, dont vous trouverez le lien d'écoute dans la description de cet épisode. Allez, sans plus attendre, je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Damien. Bonjour Damien.
Bonjour Lika.
Rebonjour en vérité.
Rebonjour.
On continue sur notre lancée. Pour les auditeurs qui arrivent sur cet épisode, je vous invite vivement à écouter le premier épisode, en fait, qui correspond à la partie 1 de l'échange avec Damien, qui est disponible sur le podcast Les Petites Transmissions et qui traite de l'autisme et de l'hyperactivité, mais pour l'accueil en crèche, en structure collective.
Voilà.
Merci d'avoir accepté cette forme d'épisode atypique et de nous permettre de prolonger, cette fois-ci, en lien avec les préjugés, en tout cas, toutes les idées reçues, les formes de croyances autour de l'accompagnement des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux, type autisme et hyperactivité.
Avec grand plaisir.
Peut-être pour quand même ceux qui nous rejoignent, peut-être est-ce que tu peux te présenter?
Oui, alors moi c'est Damien, je suis psychologue, je travaille actuellement en crèche dans plus d'une trentaine d'établissements sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'accompagne pas mal de parents et de familles à l'occasion, dans le cadre de la crèche hein, bien sûr. Donc je suis témoin de pas mal de choses. J'ai eu la chance de vivre 2 ans au Canada et cette expérience-là m'a permis d'avoir, on va dire, ce qu'on appelle un radar sensible sur tout ce qui est hyperactivité, tout ce qui est autisme. Ça peut être un avantage comme un désavantage au quotidien, mais en tout cas, ça me sert beaucoup dans ma grille de lecture quotidienne et j'ai agi au maximum avec les professionnels, avec les parents que je rencontre, pour pouvoir accompagner au mieux leurs enfants.
Pourquoi tu dis que ça peut être un désavantage ?
Le désavantage, c'est parce que des fois, on dit « oui, en fait, t'en vois partout, toi ». Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est peut-être qu'il y a quelques petits éléments objectifs qui font que mon radar s'active. Et je pense qu'on sous-estime énormément, d'un côté, la proportion d'enfants qui souffrent de... ou qui ne souffrent pas, mais tout simplement qui sont neuroatypiques. Mmh. Et aussi, on a tendance beaucoup à vouloir ignorer ces troubles pour pouvoir dire « Non, mais en fait, c'est purement comportemental, c'est purement éducatif. » parce que ces notions sont mal connues. Et tout de suite, on s'imagine la caricature. Enfin, je pense tout de suite à l'autisme. Dès que je parle d'autisme en France, les gens s'imaginent un enfant reclus dans un coin en train de se balancer qu'il ne faut surtout pas toucher. Si je parle d'autisme au Canada, ils se figurent une personne qui peut être verbale, ils se figurent leur collègue de travail. C'est pas du tout le même regard.
C'est vrai. Et tu vois, on a tendance à dire que, il y a de plus en plus de cas d'autisme, ou en tout cas, voilà, que le spectre s'élargit. Mais effectivement, ça vient de notre sensibilité un peu plus grande, tu vois, et oui, un peu plus large de ce qui est la diversité, tu vois, et du neuroatypisme.
Oui.
Et moi, je pense aussi, comme toi, qu'il n'y en a pas davantage. C'est juste que on s'accorde de reconnaître certains comportements comme appartenant au spectre des troubles du spectre autistique plutôt.
Bien sûr, parce que quand on regarde un petit peu dans le passé, des personnalités qui sont dites rigides, capricieuses, voilà, mais finalement on se retrouve on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre derrière. C'est pas juste un caprice ou quoi que ce soit, c'est un besoin qui est exprimé derrière.
Oui,
Ça, c'est
complètement.
valable pour la neuroatypie comme pour la neurotypie, hein. Il y a toujours un besoin exprimé derrière.
Oui, complètement.
Voilà.
Et tu vois ce changement de regard, finalement, ça peut être une première difficulté, je dirais, ou en tout cas un premier défi pour les parents d'accepter, ou en tout cas de regarder. Une particularité du comportement ou du caractère, tu vois, comme ils
Oui,
disent,
oui.
comme quelque chose de l'ordre d'un trouble.
Oui, tout à fait. Parce que tout de suite, on va botter dans ce sujet-là pour expliquer un trouble. Et alors, vraiment, moi, j'ai un respect immense pour les mamans parce que à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute à la mère. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, nous, les papas, on se balade avec un porte-bébé dans un magasin, on est les rois du monde, on change une couche, il y a toutes les gens qui s'agenouillent autour de nous. Vous les mamans, votre enfant, il est dans les bras, entre guillemets, trop souvent, d'après la norme sociétale. Vous êtes trop fusionnel, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça. Donc, pour moi, c'est déjà un point de départ, c'est-à-dire la responsabilité qu'on va mettre dans le comportement de l'enfant vis-à-vis de la maman. Je te donne un exemple tout frais. Hier, je vais dans une crèche et il y a un enfant, clairement, je vois qu'il a des difficultés, qu'il y a peut-être un spectre autistique qui se dessine. Je n'ai pas encore vraiment bien observé, mais je pense qu'on n'est pas loin. Et par chance, je rencontre sa maman et en fait, je me rends compte que dans son parcours, on ne fait que lui reprocher d'être, entre guillemets, fusionnel avec son enfant. Mais ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce n'est pas forcément un choix. Ce n'est pas forcément une démarche personnelle de la maman de se dire, ah ben si je portais mon enfant de 15 kilos toute la journée, voilà, tout de suite c'est, ah ben c'est elle qui le force, c'est elle qui l'enferme là-dedans, alors que ben, peut-être que cette personne-là souffre, peut-être que cette personne-là n'écoute plus ses douleurs physiques ou même ses besoins fondamentaux, parce qu'en fait elle a repéré que son enfant était en difficulté, avait un besoin peut-être un peu plus fort, et je trouve que c'est vraiment injuste. De charger cette personne négativement alors que finalement, ben son comportement n'est qu'en réponse à ce que demande l'enfant.
Complètement, oui. Et c'est vrai qu'on voit souvent le cas, et en extérieur, cette maman, oui, elle peut recevoir, ben c'est parce que vous êtes fusionnel que finalement votre enfant a des problèmes d'interaction avec l'extérieur.
Voilà, et va développer des pathologies mentales.
Exactement,
Alors, juste un petit message aux mamans. Voilà. Moi, j'ai reçu, quand j'étais au Canada, des jeunes qui avaient des problèmes d'anxiété, de stress, voire même des pathologies mentales, 16, 17, 18 ans. Il n'y en a aucun qui m'a dit « j'ai été trop porté dans mon enfance ». Il n'y en a aucun qui m'a dit « j'ai été trop aimé ». Ces pathologies-là, elles étaient liées peut-être au fait qu'à un moment donné, il y avait une autorité coercitive. Peut-être voilà, qu'à un moment donné, il y avait une anxiété maladive terrible et qu'on les empêchait de faire absolument tout, qu'ils se retrouvaient vraiment dans un enclos fermé, ce qui n'a rien à voir avec le fait de vouloir porter son
De
enfant, de
répondre.
vouloir et de répondre à ses besoins. C'est complètement différent. Du moment que le parent il répond aux besoins de l'enfant et ben, bon, il écoute aussi ses besoins, c'est important, on trouve un juste équilibre. Mais je trouve que dans notre société, il faut tout de suite se distancier des enfants. Et moi, le premier, j'ai entendu, oui, bah, Damien, porte pas trop ta fille parce qu'après, elle va s'habituer. Voilà
Oui,
ce à quoi j'ai
bien
répondu.
sûr.
Mais j'espère bien qu'elle va s'habituer parce que moi, ça ne me dérange absolument pas. Bon, malheureusement, la prédiction ne s'est pas réalisée. Elle ne s'est pas habituée. Donc, du coup, voilà, ma fille vit sa vie d'adolescente à 4 ans. C'est. Voilà.
Mais tu penses pas que justement c'est parce qu'elle s'est habituée
Je l'ai trop sécurisée.
Ouais.
Voilà.
Non, mais c'est le risque, en fait, vraiment. Qu'est-ce qu'on risque à trop porter, à trop être en proximité, à trop répondre? C'est à trop sécuriser et à avoir un enfant qui est trop libre.
Voilà, c'est ça. Donc, si vous
Oui.
voulez que vos enfants restent collés à vous, ne faites pas ça.
C'est ça. Exact.
Ouais.
Exactement. Mais tu vois, ça me fait penser aussi, alors je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais il y a eu une vague, bon là, peut-être un petit peu moins, mais de regard sur les
Oui,
bébés à besoins intenses, tu
tout à
vois,
fait.
qui m'a marqué parce qu'en fait, ça venait donner une explication aux mamans, aux parents, en tout cas sur des spécificités de comportement des enfants, mais on ne parle toujours pas d'une éventualité, tu vois, de troubles,
Oui.
tu vois, et c'est comme si on voulait maquiller un peu, enfin, tu vois,
C'est vrai.
je trouve que c'est, à la fois je me dis que c'est bien, parce que c'est quand même une façon de dévoiler une spécificité, mais en même temps, en France, on est encore un peu complexé, tu vois, à
Oui,
poser les vrais mots et...
exactement, parce que ce sont des mots qui font peur. Après, voilà, il y a eu quelques témoignages que j'ai pu lire sur le sujet de parents qui disent, bah, écoutez, moi j'ai eu un baby au début, ensuite un EABI, enfant aux besoins intenses, et après un diagnostic d'autisme, un diagnostic d'hyperactivité, ou n'importe quel autre diagnostic, ou simplement de l'anxiété aussi. Voilà, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est vrai que ces mots-là, on a l'impression que c'est une petite peinture pour cacher ce qu'il y a en dessous, là. C'est plus socialement acceptable. Mais bien évidemment, oui, un enfant qui a des besoins intenses, ça doit questionner. Moi, souvent, ce que j'entends encore dans la relation mère-enfant, c'est ces gens qui disent, ouais, ben, elle allait encore. D'accord? Et alors? Ouais, ben, au-delà de 6 mois, ben, écoute, l'OMS dit 2 ans, donc 6 mois ou 2 ans? Ah ouais, mais quand même, il y a tellement d'a priori là-dessus. Et tu vois, pour moi, l'allaitement, c'est un peu comme le portage. Bon, je ne l'ai pas vécu, mais j'en vois pas mal autour de moi qui, certaines le vivent d'une manière extraordinaire, il y en a d'autres qui le subissent. Enfin, passer des heures à allaiter, se dire, bon, j'ai lu qu'il fallait pas prendre mon téléphone en même temps que j'allaite, donc du coup, bah, c'est sûr, les premières minutes, c'est sympa, mais les 3 quarts d'heure qui restent, ben, je me dis, là aussi, on est peut-être encore dans une erreur de jugement et on se dit, oui, ben, en fait, c'est la maman qui l'impose. Mais ben, non, peut-être que c'est le seul moyen que cette personne a trouvé de réconforter son enfant et de le sécuriser. Et c'est un moyen qui n'est pas forcément choisi, mais qui est peut-être subi. Et je pense que c'est vraiment important, voilà, de regarder toujours l'envers des choses et de se dire qui est vraiment la cause et quelle est vraiment la conséquence. Et très souvent, on va
Exactement.
identifier, voilà, la maman comme la cause et le comportement de l'enfant comme la conséquence, alors que, de mon point de vue, c'est très souvent l'inverse. C'est le comportement de l'enfant qui engendre la conséquence de la maman qui s'adapte à ce comportement-là.
Complètement, ouais. Et tu vois, c'est vraiment, oui, tu as raison, on ne regarde pas dans le bon sens. C'est qu'en fait, c'est souvent des comportements corrélés, tu vois, des comportements d'enfants et des attitudes de parents. C'est souvent corrélé, mais c'est absolument pas une causalité de cause-effet direct. Ouais.
Tout à fait.
Et c'est vrai que ça, c'est déjà un beau premier préjugé. Ouais.
Après, les préjugés suivants, ça va être sur les limites éducationnelles.
Ouais.
C'est-à-dire que très souvent, je vais entendre, ah ben cet enfant n'a pas de limite. On fait ce genre de jeu avec tel enfant. Ah ben eux, ils sont dans la parentalité bienveillante, donc du coup, il n'y a absolument aucun cadre. Donc voilà, là, tu reconnais bien tous les préjugés, les a priori qu'on peut avoir, formulés autant par des gens qu'on côtoie, des grands-parents, enfin voilà. Ben, ces limites éducationnelles-là, il peut y en avoir de très très grosses, mais pour un enfant, par exemple, qui souffre de TDAH, il y a beau avoir des grosses limites éducationnelles, ben, ça ne va peut-être pas l'aider, au contraire. Au contraire, ça va être difficile parce que cet enfant-là, il va se retrouver avec beaucoup d'exigences et des capacités à les réaliser qui sont en deçà des autres
C'est
enfants.
ça.
Ce qui fait que le résultat, ça nous donne un enfant qui est encore plus agité, qui est vraiment dans une certaine forme de détresse, qui commence même à perdre confiance en lui, et à côté, des gens qui nous disent, oui, ben, il faut resserrer la vis.
Alors que peut-être au contraire, il s'agirait d'élargir le cadre.
Voilà.
Pour permettre plus de liberté à l'intérieur, quoi.
Tout à fait. Je te donne un exemple. Cette année, j'ai suivi, enfin, les 2 dernières années, j'ai suivi un petit qui était à la crèche avec une évolution extraordinaire. Et lui, c'était vraiment le prototype du TDAH. C'est pas beau à dire, mais il avait vraiment tous les symptômes. Distraction, impulsivité, hyperactivité motrice. Il avait tout. Et un jour, il y a sa maman qui me dit, mais quand même, c'est terrible parce qu'on a passé, on devait passer toute la journée, c'était la fête des pompiers, c'était génial. On a passé la matinée, à la fin de la matinée, ben, il a explosé. Je dis, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est en fait, mais toute la matinée, ça veut dire qu'il a réussi à tenir toute la matinée dans un environnement où il y a du bruit, dans un environnement où il y a des gens, où il y a une quantité d'informations qu'il ne peut pas filtrer et qui vont forcément, même si c'est des informations agréables, mais qui vont forcément augmenter sa tension intérieure et qui font qu'au bout d'un moment, eh ben, le corps il dit stop, je n'y arrive plus. Mais quand le corps il dit stop pour un enfant, ça veut dire j'explose littéralement.
Complètement, complètement. Ouais. Et ça me fait penser, moi, à un autre exemple d'une maman qui, sa fille semble tellement hyperactive, tu vois, avec un trouble, un TDAH, etc.
Oui.
Et, où elle va suivre absolument en lui complétant son planning, parce qu'elle dit, comme elle a de l'énergie à revendre, je vais lui faire en sorte qu'elle fasse toujours un truc, quoi, parce qu'elle a l'air de le demander.
Oui.
Tu vois, cette difficulté de se positionner vis-à-vis d'une apparence trompeuse, tu vois, d'un enfant qui a l'impression, on a l'impression qu'il déborde d'énergie, mais en fait c'est juste qu'il a plutôt besoin d'avoir un espace, mais plutôt vide pour pouvoir exprimer. Mais plus on va combler son planning, et plus il va être contraint sous différentes formes en plus, avec probablement différents interlocuteurs. Et là, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'en grandissant, probablement, c'est un enfant qui va avoir du mal à quoi savoir faire, ou peut-être qu'il va se suradapter par survie, tu vois, et qu'il va continuer à s'éloigner finalement de lui-même, quoi.
Tout à fait, parce que là, en fait, ce qu'on lui apprend à faire, c'est de se déresponsabiliser de sa petite voix intérieure qui lui dit « j'ai envie de faire ça ».
Oui.
Et les enfants TDAH, hyperactifs ou pas hyperactifs, voilà, qui ont juste le TDA, ils ont une créativité qui est juste exponentielle. Parce que ce déficit d'inhibition qu'est l'hyperactivité, il est aussi présent dans tout ce qui est réflexion. Donc, à un moment donné, dans ma réflexion, je suis bloqué parce que mon cerveau ne fait pas les liens. Eux, la barrière, elle n'y est pas. Donc, il y a plein de liens qui se font. Et c'est des enfants qui peuvent avoir des jeux en autonomie qui sont juste extraordinaires, avec plein de personnages, plein de choses. Et si on cale leur emploi du temps de manière à ce qu'il y ait zéro zone d'expression libre, comme tu dis, c'est une suradaptation constante qui est très fatigante. Mais aussi, on les empêche de se connecter à leurs envies propres et à leur imaginaire, qui est juste sans limite.
Mais complètement.
C'est ça qui est dommage.
Oui. Et tu vois, ce que tu dis là, c'est que parfois, c'est que souvent, en fait, on a, c'est vu comme un trouble avec beaucoup de choses négatives. Mais là, c'est trop beau ce que tu dis, parce que ça montre aussi le super pouvoir.
Oui. Ah bah
le super pouvoir de créativité. Et c'est vraiment ce que j'essaie aussi de véhiculer, de voir que finalement, il y a se connecter à cette puissance, c'est en se connectant à cette puissance, c'est en aidant l'enfant à se connecter à cette puissance qu'il pourra être bien dans son incarnation, enfin, en tout cas dans sa vie, dans sa révélation.
Bien sûr, et surtout quand on le laisse faire des tâches qui le motivent, il va beaucoup moins se retrouver en échec que quand il fait des tâches qui ne le motivent pas. Parce que le problème avec l'hyperactivité, c'est qu'il y a un moment où l'effort cognitif est beaucoup trop fort à fournir. Donc, l'enfant ne va pas forcément répondre le résultat qu'on attend de lui et va se dire « je suis nul, j'y arrive pas » parce qu'il voit bien que les autres y arrivent. Tandis que si on est sur son champ à lui, il va être ultra performant et là, on va renforcer sa confiance en lui. Donc vraiment, il y a un double effet. La confiance en soi, pour moi, c'est vraiment la bataille principale qu'il faut mener avec les enfants hyperactifs. Je me souviendrai toujours, tu sais, quand j'étais au Canada, j'avais eu la chance de travailler avec Claude Gaumont, qui est un psychologue exceptionnel. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'on prenait un groupe d'enfants diagnostiqués hyperactifs sous traitement et on leur faisait tout un tas d'interventions. Celle qui me plaisait le plus, c'était les jeux du cirque, parce que tu sais, il faut de l'attention soutenue pour pouvoir tenir en équilibre, pour pouvoir faire... et en même temps, vu que c'est motivant, ils se régalaient. Et je me souviendrai toujours de ces enfants, quand ils arrivaient, ils avaient tous le même discours. « Je suis nul, je vaux rien.
»
De 5, 6, 7 ans. J'étais là, mais enfin, les enfants, déjà à cet âge-là, vous avez ce genre de propos, ce genre d'image de vous, c'est impressionnant. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir laisser cette liberté. Et c'est une liberté aussi importante, je pense, dans l'autisme. Je pense notamment à tout ce qui est stéréotypie. Tu sais, en France, les stéréotypies, il faut tout de suite les enlever. Attention, regardez, il fait toujours la même chose. Là, non, on va l'en sortir parce qu'il est enfermé dans son monde. Je pense que, tu vois, ce préjugé-là, il coûte vraiment très, très cher aux personnes autistes parce qu'il n'y a rien de plus magique pour moi que d'entrer avec l'enfant dans sa stéréotypie. Je te donne un exemple. Un jour, on reçoit en crèche une petite fille qui a un diagnostic d'autisme, qui vient du CAMS, on fait un partenariat avec le CAMS, et cette petite fille, elle arrive, et bon, elle est un petit peu timide, elle va directement vers le toboggan, et là, elle prend un objet, elle le jette sur le toboggan, et avec son petit œil de physicienne mathématicienne, là, elle regarde la trajectoire que prend l'objet et qui descend, et tu vois qu'elle a un grand sourire. Alors moi, je m'approche, là, en mode commando, je me mets en haut du toboggan, et je commence à faire la même chose qu'elle, il y a eu une connexion extraordinaire. On a rigolé, j'ai entendu le son de sa voix, et ce qui fait que les prochaines fois que je l'ai vu, ben on s'est, tout de suite on a connecté et on a pu faire d'autres activités. Et si je suis les recommandations des préjugés comme quoi l'enfant il est dans sa bulle, il faut l'en sortir, ben je lui aurais fait violence en lui disant « Allez, ça suffit, maintenant on arrête les bêtises, viens faire l'activité de pâte à modeler et surtout viens pas la manger. »
C'est comme si tu allais avec elle ouvrir une lourde porte pour aller plus loin après, quoi.
Oui.
Enfin, c'était c'est cette connexion. Moi, ça me fait penser, tu sais, j'ai un de mes enfants qui a été diagnostiqué autiste. Et, et donc, il avait des petites choses. Enfin, c'est des stratégies qui se modifient. C'est des stéréotypes qui évoluent avec l'âge, tu vois. Mais je me souviens, pour dormir, il fallait faire 2 bisous à gauche, 1 bisou à droite, 3 bisous à gauche, 2 bisous à droite, enfin un truc.
Te trompe pas, Lika, attention, te trompe pas.
Et du coup, et on sentait qu'il se concentrait et tac, 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 tac. Enfin, ce qui était très précieux pour lui, c'est qu'à aucun moment, on ne le prenne pas au sérieux.
Oui.
Tu vois ?
Oui, oui.
Et que, ok, c'est ça. Tac, on fait tout, tu vois. Ou alors, tu vois, quand il se lève, fallait qu'on se mette à cet endroit du carrelage au sol pour l'attendre quand il allait aux toilettes, voilà. Et tant qu'on a pu, on l'a pris au sérieux, on l'a toujours pris au sérieux. Et c'est ce qui nous a permis, je suis sûre, de lui permettre d'élaborer d'autres stratégies sans sacraliser absolument celle-ci ou de, qu'il ait eu besoin de lutter pour que ce soit respecté, tu vois, et pour différentes stéréotypies comme ça. Et finalement, nous on le connaît, enfin je pense qu'il a des, voilà, on est autour de lui d'une façon à l'accepter, tu vois, avec ses stéréotypies, avec ses, et avec ses choix aussi spécifiques, tu vois, des centres d'attention assez voilà. Et je suis sûre, effectivement, moi c'est comme ça l'image que je vois, c'est vivre ça avec lui pour qu'il nous, pour qu'on reste à côté de lui pour la suite qui est beaucoup plus grande, quoi. Ouais.
Tout à fait. Et c'est aussi s'ouvrir à ses besoins. Là, il exprime clairement un besoin de stabilité à ce moment-là. Tu vois, pas de rigidité, c'est pas la même chose. Rigidité, c'est nous qui, voilà, on aligne nos stylos sur le bureau. Stabilité, c'est le stylo, il est en travers, la prochaine fois, il faut que ce soit en travers. Donc ça, c'est vraiment important de faire la différence. Et bah, c'est ouvrir aussi son horizon vers son besoin-là pour mieux comprendre son fonctionnement. J'ai un exemple parfait là-dessus aussi. Un jour, quand j'étais à Québec, il y a une petite fille que j'avais vue qui parlait très très bien, se tenait bien, enfin vraiment aucun symptôme autistique visible. Et elle était à l'école et un jour, c'est une remplaçante qui vient et au lieu de faire la récréation à 10h30, eh ben, elle commence à tarder un petit peu. Donc la petite fille se lève et dit à la maîtresse, Madame, alors là-bas au Québec, ils appellent les profs par Madame plus le prénom, on va dire qu'elle s'appelle Madame Sonia, je dis au hasard. Hein. Madame Sonia, habituellement, nous faisons la récréation à 10h30, 5 ans, hein, la petite, faisons la récréation à 10h30, donc est-ce que nous pourrions sortir maintenant, s'il vous plaît ? L'enseignante qui se dit, quelle impertinente celle-là, bon, même si on est au Québec, hein, y en a quand même qui, voilà, rassieds-toi tout de suite, la récréation, je la fais quand je veux. Elle se rassoit, c'est elle qui me raconte, hein, c'est la petite qui me raconte. Elle se rassoit, réfléchit un petit peu, et là, elle se lève et dit, si vous ne faites pas la récréation tout de suite, j'en réfère à la commission scolaire.
Ah ouais.
Voilà. Et là, tu vois, la prof, je pense qu'elle a dû se dire, eh là là, quelle capricieuse celle-là. Mais personne ne lui a jamais mis de limite, personne, ben voilà, tout de suite, tout lui est dû. Tu vois. Alors qu'en fait, Cette petite, elle était dans un état d'anxiété ultime.
Ultime.
Voilà. Elle était en stress total, mais ça ne paraît pas parce que son visage est impassible et que face à toi, tu es une enfant avec des yeux bleus perçants et qui veut juste te faire obéir à ce qu'elle te demande. Et ce rapport de force aussi, je pense qu'il faut l'oublier avec les enfants. Que ce soit neurotypique ou neuroatypique, le rapport de force, il est toujours en notre faveur. On est les adultes, on a la responsabilité, on a la force physique, il est toujours en notre faveur. Et on n'a pas à devoir mener une guerre contre eux, on a juste à essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Et vu que notre cerveau est mature à nous, eh ben on a les outils pour le faire. Enfin, normalement, hein, après... Normalement.
Mais oui, mais tu as raison, parce qu'on se place souvent dans une forme de défiance. Ou en tout cas, on l'interprète comme ça. Et tu as raison que même par rapport au débat qu'il y a pu avoir autour de l'éducation positive, la discipline positive, tu vois, de choisir ses combats aussi, tu vois, et de reconnaître que poser un cadre, c'est une chose, et ensuite faire confiance, tu vois, au raisonnement de l'enfant, tu vois, faire confiance au fait qu'on peut prendre des décisions en fonction de son besoin, on peut prendre des décisions, en tout cas, on peut s'orienter en fonction de sa décision à lui, parce que c'est comme ça qu'on va nourrir, ou en tout cas qu'on va développer son libre arbitre, sa capacité à pouvoir se positionner, s'ancrer, s'exprimer. Enfin, c'est quand même ça qu'on souhaite pour les enfants qu'on a autour de nous et qu'on aime, c'est qu'ils puissent, en grandissant, avoir la confiance que leurs propos sont légitimes, valables, valides, et ça passe par là, en choisissant les combats et en élargissant parfois le cadre pour pouvoir leur laisser complètement une place de liberté à l'intérieur.
Tout à fait, et élargir le cadre, ça ne veut pas dire absence de cadre.
Complètement.
Et malheureusement, des fois, très souvent, un cadre trop strict va générer énormément de problématiques. Parce que l'enfant, au final, il va se sentir anormal, il va se sentir pas performant, et ça va le détruire au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est de pouvoir quitter cette relation-là de guéguerre entre parents-enfants, pour pouvoir se dire, ok, bon ben là, peu importe ce que les gens pensent autour, moi je sais ce que mon enfant essaie de me dire, je vais me focaliser là-dessus.
Complètement.
Mais c'est pas évident.
C'est pas évident,
Parce que tu vois, la maman dont je te parlais tout à l'heure, dont on disait qu'elle était très fusionnelle, tout son environnement s'est focalisé là-dessus. Il n'y a pas eu de soutien.
Elle s'est trouvée
complètement seule.
Et finalement, c'est lui apporter une forme d'insécurité qui, effectivement, va basculer sur la relation avec son enfant. Parce qu'une maman insécure, une maman non légitimée, c'est sûr que ça aura des répercussions. Et encore une fois, c'est la conséquence de son environnement à elle. Et, pas...
Et après, si elle voit quelque chose que les autres ne voient pas, là aussi, je pense que c'est important de se poser la question... Est-ce que mon enfant, finalement, n'est pas à mon image? Dans le sens où il y a un facteur génétique énorme dans tout ce qui est hyperactivité, dans tout ce qui est autisme. Donc peut-être que nous aussi, on a un fonctionnement autistique, peut-être que nous aussi, on a un fonctionnement hyperactif. Et c'est là où c'est compliqué. Parce qu'une personne, imaginons, une personne hyperactive qui a reçu une éducation très autoritaire, dans son souvenir nostalgique, elle va se dire « Oui, bon, on a les traditionnels, j'en suis pas mort, bon, mais peut-être que ça m'a servi. » Mais en fait, elle n'en sait rien de si à un moment donné, une éducation bienveillante, ça lui aurait fait du bien. Ou alors, si elle s'imagine bien, elle peut essayer de ne pas appliquer ça à son enfant. Mais vu qu'elle aussi, elle a du mal à écouter ses besoins, elle se dit, je ne suis pas normal, je ne devrais pas m'énerver, je devrais retenir plus de choses. Et là, on a un double échec, là.
Complètement. Et ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, il y a quelque chose... moi, ça me fait penser à mon histoire personnelle où finalement... Pendant très longtemps, j'avais l'impression, et je n'étais pas fière de le dire, que j'étais la seule à comprendre mon enfant.
Oui.
Tu vois. Et je n'étais pas fière de le dire parce que professionnelle de l'enfance, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette mère qui ne peut pas déléguer les regards croisés, qui a des convictions, qui façonne son enfant à son image, qui n'arrive pas à souffrir. Enfin, j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise. Et en parallèle de l'accompagnement diagnostique de mon enfant, j'ai pris les devants et on m'a diagnostiqué un autisme. Et ça, c'est venu en fait me causer grande violence parce qu'en fait, je m'apercevais que si je le comprenais, je le comprenais certes, mais j'avais une volonté de le protéger de la violence que moi j'avais subie.
Oui.
Tu
oui,
vois
oui.
Et finalement, je le à la fois, j'étais rassurée de voir qu'il y a au moins une personne qui le comprend, tu vois, mais oui. Avec cet aller-retour de quand même, c'est pas facile, tu vois, ce qu'il va t'attendre, ce que voilà, de je sais pas, ben voilà, est-ce que je devrais t'adapter, te suradapter, ou est-ce que je devrais te donner la puissance que je n'ai pas pu avoir, enfin voilà, c'est. Et effectivement, donc ce qu'on m'a expliqué les psychiatres et psychologues de mon parcours, c'est que bien souvent ça se passe comme ça. Finalement, c'est des parents qui révèlent leur neuroatypisme par celui évident de leur enfant. Et, ouais.
Tout à fait. Mais surtout à notre époque, c'est vraiment l'époque des grandes découvertes. Je me souviens quand j'étais au Canada, dès qu'on avait un soupçon sur un enfant, on testait les deux parents.
Ah ouais. C'est pas fait en France, hein. C'est pas systématique.
Non.
Hein.
Et ça devrait l'être. Et franchement, au niveau des statistiques, le TDAH, on est à 70% d'héritabilité. Le TSA, on est entre 30 et 90%. De mon expérience personnelle, je suis sur du 100%, au moins un des deux parents.
Au moins un. Et là, ben, mon fils, c'est probablement les deux. mais c'est au moins un, oui. Et ça, les parents, ils ont parfois du mal. Et je pense, peut-être pour finir sur les préjugés, je pense que ce qui est compliqué, c'est de dire aux parents, non seulement vous risquez de passer à côté de votre enfant, mais en plus vous êtes passer à côté de vous.
Oui, tout à fait.
Quelque chose de, mais si j'admets ça pour lui, d'une forme de différence, de spécificité, est-ce que je dois l'admettre pour moi, à l'âge que j'ai, avec tout ce que j'ai vécu et...
Ben oui, et aussi se dire, j'ai tout à fait le droit de ne pas coller à ce qu'on attend de moi, à ce que la société attend de moi. J'ai le droit de m'exprimer dans la limite, bien évidemment, des règles sociales, on est d'accord. Alors, on ne va pas aller taper quelqu'un ou quoi que ce soit, mais tout le monde a sa place dans cette société. Et je pense que c'est important peut-être d'abord de se donner le droit à soi pour ensuite le donner à son enfant. Ça sera beaucoup plus facile. Parce que c'est plus facile d'autoriser. C'est un peu comme l'empathie, tu sais. Hein.
Oui,
on ne se permet pas de ressentir certaines émotions, pourquoi les enfants auraient le droit de le ressentir? Si je ne me permets pas d'être moi-même, pourquoi l'enfant aurait le droit d'être lui-même?
Complètement.
Ouais. Donc c'est ça, c'est...
Se donner le droit à soi. Je te propose de finir là-dessus. C'est une très belle invitation. Est-ce que peut-être, pour conclure, est-ce que tu aurais un thème ou un invité à me suggérer pour un prochain épisode?
Alors, j'en ai plusieurs. Moi, c'est plutôt des personnes, des invités. Bon, après, ça c'est mon rêve parce que c'est mon idole, mais je ne sais pas si tu connais Mélanie Bilodeau. C'est une psychoéducatrice québécoise que je trouve juste extraordinaire. Vraiment, je trouve qu'il y a énormément de bon sens dans ce qu'elle fait. Si j'avais la possibilité de la permuter avec Caroline Goldman, ça serait parfait, comme ça, voilà, on l'a en France, tu vois. Et comme ça, on entend ce...
Caroline Goldman ferait long feu au cas.
C'est vrai. Mais voilà, Mélanie Bilodeau, en tout cas, ça, c'est une personne vraiment, je trouve, extraordinaire. Et un peu plus proche de nous en France, il y a aussi Gilles Vaquier de la Baume. Je ne sais pas si tu connais cette personne.
Oui, je le connais. Oui.
Voilà, tu le connais, voilà, qui fait beaucoup de choses avec les papas. Qui est dans une dynamique de redynamisation des papas, d'engagement, d'implication. Et je trouve qu'il est, non seulement c'est un personnage extraordinaire, parce qu'il a un peps... à tout rompre, mais aussi voilà, il impulse une dynamique qui est clairement futuriste et je le trouve lui aussi extraordinaire.
Inspirante, oui.
Oh oui.
Super. Merci infiniment, Damien.
Avec plaisir.
Je me ferai en
merci fond, à toi.
On reste en contact et puis on se fera un plaisir probablement d'enregistrer encore d'autres épisodes.
Oh oui. Il y a bien des sujets dont on pourrait parler. Merci beaucoup, Lika. À bientôt.
Merci à toi.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les infos et liens utiles dans sa description. Si vous avez des questions, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez aider à la visibilité de cet épisode, ajoutez 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et mieux, ajoutez un petit commentaire. À bientôt pour d'autres échanges passionnant.